Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à tous et bienvenue dans le mag du samedi sur Cocktail FM, consacré ce matin à Lionel Chouchon, instigateur du Festival du film fantastique de Gérardmer. Juste avant que l'on découvre sous les pavés parisiens la plage, Lionel Chouchon, alias Chouchon, inventait alors un métier, celui de la communication et des relations publiques. En mars 1968, il crée sa petite entreprise qui deviendrait bientôt un des leaders européens de la communication et de l'événementiel grâce à un coup de maître, la création du premier festival international du film fantastique. C'était à Avoriaz. Depuis, Lionel Chouchon a réitéré à Gérardmer, bien sûr, mais aussi à Cognac, Deauville ou encore au Marrakech. Lionel Chouchon, reconnu pour ses connaissances et ses innovations dans les métiers des relations publiques, est aussi un homme de plume, plutôt acéré à la sienne, fait dans le pamphlet L'humour noir et le pince sans rire. Son dernier livre, Mon Papa Razzi aux éditions du Rocher, sortira le 20 janvier prochain. Aujourd'hui, Jean-Christophe Givor vous propose de retracer l'histoire du festival, sa naissance, sa montée en puissance, qui est étroitement liée à celle de Lionel Chouchon, mais aussi celle de l'autre Lionel, Chouchon, homme de lettres.
Lionel Chouchon, vous êtes actuellement à la tête du public système. On peut dire un des leaders mondiaux de l'événementiel et des relations publiques.
Mondiaux, je n'irai pas jusqu'à là, mais enfin bon, en tout cas sur le territoire français et européen, on est dans les têtes d'affiche, mais voilà.
Comment en êtes-vous arrivé à ce métier? Parce que quand vous l'avez commencé, c'était un métier qui n'existait pas, qui était à créer.
Je suis arrivé là-dedans complètement par hasard, parce que moi, à l'âge où les petits garçons veulent être pilotes d'avion, ou est-ce que je sais, moi, ou marin ou long cours, moi je voulais être vétérinaire. Donc vous voyez, j'avais une vocation écrite. Il se trouve que j'ai perdu mon père alors que j'avais 13 ans, qui avait une affaire de décoration, d'ameublement. Et c'est ma mère et mon frère qui l'ont reprise. Donc du coup, j'ai fait des études, j'ai fait sup de co, j'ai fait un peu de droit, etc. pour pouvoir reprendre cette affaire de famille. Qui, le temps que je fasse mes études d'une part et que je fasse un service militaire qui à l'époque durait 27 mois, s'est cassé la gueule. Donc, si vous voulez, j'ai donc changé de braquet. Je pense que c'est une bonne chose pour moi, parce que je n'étais pas fait du tout pour le commerce, en tout cas pour ce genre de choses. Et j'ai commencé comme rédacteur concepteur dans une agence de publicité. Ensuite, au sein de cette agence, j'ai développé, disons, une petite société d'études de marché. Ensuite, j'ai créé, avec leur appui d'abord, et ensuite ils m'ont donné libre accès, enfin, j'avais plus besoin d'eux, une petite agence de relations publiques, alors qu'ils me proposaient de faire de la publicité, parce que je trouvais que c'était plus rigolo, il y avait moins de gens, et qu'il me semblait qu'il y avait des choses à faire. Voilà. Et donc j'ai commencé en 68. Ce qui fait, j'ai même commencé très précisément en mars 68, ce qui fait qu'on a eu des grandes vacances très très vite. Un de mes premiers, pour arriver peut-être un peu à un point qui se rejoindra au bouquin tout à l'heure, c'est qu'un de mes premiers dossiers et clients, c'était Avoriaz. Où le problème qu'on m'avait posé, qu'ils avaient posé à plusieurs agences, c'était bon, qu'est-ce que vous auriez comme stratégie pour donner à cette station une image, la remplir en période creuse et nous aider à vendre les appartements, les buildings, etc. Et moi j'ai eu cette idée de faire un festival de cinéma. Je connaissais rien ni personne à l'époque dans le cinéma, mais j'ai été vampé par le côté science-fiction d'Avoria et donc j'ai créé ce festival qui est devenu en très très peu de temps un must, puisque si vous voulez, le premier lauréat c'était Steven Spielberg, le deuxième c'était Brian De Palma, deux ou trois ans plus tard c'était le gars de Mad Max, c'était, enfin bon, tous les plus grands metteurs en scène d'aujourd'hui ont commencé dans le fantastique, donc ça nous a beaucoup servi, beaucoup aidé, voilà. Et puis ensuite, bon, les choses se sont, vous savez, quand vous êtes dans un métier comme ça, moi j'ai créé cette agence, au début on devait être 6, hein, mais c'est comme la bicyclette, si vous arrêtez de pédaler, vous n'allez pas moins vite, vous vous cassez la gueule. Donc voilà, si vous vous n'avez pas comme obstination le fait non seulement de faire bien votre boulot, mais de densifier, de grandir, etc., ben, il y a un jour où vous êtes asphyxié.
D'attirer des Spielberg et autres à Avoriaz, dans le fin fond de la France, dans une petite station de montagne, juste au-dessus de Morzine, qui n'était même pas connue à l'époque, comment vous y êtes-vous pris? C'était quoi la recette, le secret de la com vers ces gens-là, qui étaient vraiment loin?
Le hasard fait qu'à cette époque-là, donc dans les années 70, comme je vous l'ai dit, tous les metteurs en scène qui allaient devenir des gens très connus dans le monde faisaient leur premier film dans le domaine du fantastique, parce que ça permet, c'est un exercice de style. Donc si vous voulez, Spielberg, il n'est pas venu la première année. On a eu son film, il s'appelait Duel, qui a eu le Grand Prix. Mais qui a fait un tel tabac ensuite que ça a permis, si vous voulez, qu'on ait d'autres films ensuite, d'autres metteurs en scène, machin, etc. Voilà. Et puis les choses, petit à petit, se cristallisent comme ça. Je vais prendre un autre exemple. Luc Besson, il a été découvert par Avoriaz avec Le Dernier Combat. Benex a été découvert parce qu'il a eu le prix du court-métrage fantastique. David Lynch a été découvert avec un film qui s'appelait Eraserhead. Et comme cette station était complètement magique, si vous voulez, que ces gens-là, après qu'ils aient eu des prix, etc., ben, moi je remontais au créneau et je leur disais, écoutez, est-ce que ça vous intéresserait de venir et d'être le président du festival, etc. Et c'est comme ça qu'effectivement on a vu défiler, j'ai comme président Robert De Niro, bon, il est à Cannes cette année, moi je l'ai, il y a des décennies que je l'ai eu, là il y a Deauville, et si vous voulez, c'est pas, ça n'a plus rien à voir avec de la com, quoi. C'est des hasards de la vie, et c'est la sympathie qu'on peut avoir et la réciproque avec ces gens.
D'Avoriaz à Gérardmer, il y a eu un pas, mais il y a eu d'abord à Avoriaz, on va dire, un summum, une explosion avec des budgets hallucinants, beaucoup, beaucoup d'invités. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, je suis venu tout à la fin. Renaissance d'un festival à Gérardmer. Alors là, encore une fois, comment fait-on pour recréer quelque chose qui est mort, qui a eu son heure de gloire, et pour que ça refonctionne une deuxième fois?
Ben, si vous voulez, ça a refonctionné une deuxième fois parce que justement, moi j'ai pas voulu faire la même chose. Avoriaz était un festival médiatique. D'abord, c'était à l'époque, j'ai commencé avec une salle de 220 personnes. Donc si vous voulez, une fois que vous aviez le jury, les personnalités, les journalistes, il n'y avait plus personne plus de siège pour rentrer. Donc j'ai donc voulu choisir une station qui n'ait rien à voir avec Avoriaz, c'est-à-dire que les gens, les invités, n'aient pas à comparer la longueur des pistes, la qualité des hôtels, les saveurs de la bouffe, etc. Parce que tout ça, c'est des critères qui fonctionnent. Donc, j'ai été sollicité par plusieurs villes et j'ai choisi celle qui me paraissait le plus éloignée de ce que j'avais fait à Avoriaz pour créer un autre truc. Et l'autre truc, c'était de dire, bon, on va faire une manifestation dont le maître étalon pour savoir si ça marche ou pas, c'est plus simplement les médias, c'est les gens qui vont venir. Hein, c'est l'indice du public. Et on a complètement réussi notre coup relativement rapidement parce que grâce, si vous voulez, à la façon dont Gérardmer nous a aidé à créer ce festival, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, hein, et notamment avec les bénévoles, parce qu'il y a quand même 500 ou 600 bénévoles qui sont sur le coup chaque année, c'est devenu un rendez-vous et chaque année, il y a entre 30, 35 000, 40 000 spectateurs qui viennent un peu partout, hein, de Colmar, de Mulhouse, de Nancy, de Metz et compagnie. Bon, et même des Belges et des Allemands et tout ça. Donc voilà, si vous voulez, c'est ça qui a fait. Puis l'autre point, moi j'avais appelé ça Fantasticar au début parce que pour ça, on ne se limite pas au cinéma. C'est-à-dire que, si vous voulez, ici, c'est les films, bien évidemment, c'est les courts-métrages, c'est les vidéos, c'est les arts plastiques, c'est la BD, c'est tout ça. Hein, voilà, la littérature, voilà. Donc, si vous voulez, c'était une autre approche et c'est une autre expérience. Et moi, je dois dire que je suis ravi d'avoir vécu ça, quoi.
Entre-temps, vous avez remis le couvert, mais alors dans d'autres genres. Alors à Deauville, avec le festival du film américain, et puis à Cognac aussi, avec le festival du film policier qui s'est déplacé depuis. Mais bon, vous êtes resté dans les villes quand même de production de boissons nobles.
Oui, oui, c'est un hasard. Hein. Mais si vous voulez, bah, Cognac, c'est pareil. C'était parce que, si vous voulez, on avait été sollicité pour réfléchir sur une façon de redynamiser l'image de Cognac. On est parti sur un festival de cinéma parce que le cinéma permet de remettre les choses un peu à la mode ou de les créer. Donc on a fait ça pendant 25 ans. On était arrivé un peu au bout du rouleau et on a migré effectivement de l'alcool cognacais au Bourgogne. Ce qui est pas vraiment plus.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, apprendre un peu l'air, sentir les ombres, rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, entre terre et mer, voler un peu de paix, des refrains à la mer. Bien sûr tu serais là, moi blotti contre toi, je te raconterai ce rêve. Quand tu veux, on y va. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Ici on vit caché, ici on vit damné, ici le temps se compte, on frustre nos hontes. Là-bas tu peux mentir, là-bas tu peux tricher, là-bas on peut salir, là-bas on peut être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. On y va. C'est juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Quand tu veux, on y va.
En compagnie de Lionel Chouchan, à la tête d'une des plus grandes sociétés événementielles et de relations publiques européennes. Il est l'instigateur du festival du film Fantastique, né à Voriaz, et aujourd'hui depuis 18 ans à Gérardmer, mais il est aussi celui de Cognac, passé à Beaune. Un festival du film policier prisé, très fréquenté par les plus grands. Et à ce propos, un petit souvenir croustillant. Vous aviez eu un échange, ça devait être avec Chabrol, je crois, à ce sujet, non ?
Oui, parce qu'il y avait un journaliste qui avait posé la question lors d'une conférence de presse, mais pourquoi est-ce que, bon, pourquoi un festival du film policier à Cognac ? Et Chabrol avait répondu parce qu'il n'y avait pas de ville qui s'appelle Whisky.
Il y a dans votre carrière beaucoup de cinéma et beaucoup de cinéphiles, et puis de grands réalisateurs dont vous êtes rapprochés. Et puis il y a aussi des grands coups, on va dire, dont on ignore parfois que vous en êtes à l'origine. Alors je pensais notamment au lancement de Windows Vista, la semaine du goût, c'est vous ça ?
Oui, c'est pas nous qui l'avons créé, on l'a reprise il y a quelques années. Mais moi j'avais créé, ça continue d'ailleurs, la fête des grands-mères. Moi j'ai créé la fête des grands-mères, j'ai amené un certain nombre de sociétés à faire des fondations pour aider. Ça a été la fondation Philippe Maurice pour le cinéma qui, pendant toutes les années 80 et 1995, a été vraiment le Saint-Bernard du cinéma français. Ça a été la fondation Électricité de France qui existe toujours et qui aide un certain nombre de domaines des gens. Moi j'ai toujours intéressé par le fait que les sociétés privées se substituent un peu au pouvoir public dans le domaine de la culture, de l'aide à ceci ou cela. Je pense que dans ce domaine-là, j'étais un peu un novateur et c'est ça qui m'excitait. Ce qui est intéressant dans ce métier, si vous voulez, des relations publiques au sens large, c'est qu'à la différence de la publicité, les publicitaires, il y a beaucoup de gens géniaux dedans. Mais une fois qu'ils ont analysé votre problème et qu'ils vous ont décortiqué une stratégie, c'est quoi les moyens qu'ils utilisent ? Ce sont toujours les mêmes. Un, c'est la télé. Donc, si vous voulez, avec des films de 30 secondes, de 2 minutes, ce que vous voulez. Maintenant, ça marche aussi sur Internet. En deux, c'est les magazines, la pub dans les médias. En trois, c'est la radio. Dans ce métier qu'on appelle les relations publiques, si vous voulez, on n'a pas 3 ou 4 flèches dans notre carquois. On les invente tous les matins. J'ai fait faire à l'Électricité de France une collection de guides qui s'appelait le guide du tourisme industriel et technique. Et on en a sorti 12 en 2 ou 3 ans qui ont été refaits, machin, etc. J'avais eu cette idée parce que quelqu'un un jour m'avait expliqué qu'à Blois, il y avait plus de visiteurs dans les chocolateries Poulain que dans le château de Blois. Et deuxième chose, j'avais découvert que Arcopal, vous savez, le jambon, j'avais été visiter cette usine parce qu'on travaillait pour Arcopal à l'époque en relation presse, et j'avais été fasciné par ce que c'était que les fours à verre, les machins, etc. Et effectivement, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui l'étaient, indépendamment des églises romanes et des châteaux anciens, vont voir ça. Bon. Donc voilà, si vous voulez, c'est ça qui, moi, m'a motivé toute ma vie professionnelle dans ce domaine-là.
Si Lionel Chouchan est le fondateur et encore aujourd'hui le dirigeant d'un des plus grands groupes de communication européens, c'est aussi un écrivain. Son premier livre, en 1965, La tête enflée, obtient le prix Pop Art de littérature en 1967, juste avant qu'il fonde justement sa boîte de com. Suivront une douzaine de romans et pamphlets, dont La descente aux affaires, une satire au vitriol du milieu des affaires et de la pub dans les années 70-80. Une suite quelques années plus tard de La Boulotique qui obtient un grand prix de l'humour. A noter aussi Les Petits Anards ou encore L'Homme qui ne supportait pas les infos. Bref, chez Lionel Chouchan, comme le dit sa bio officielle, il y a une furieuse tendance à scier les branches, côté job au moins, sur lesquelles l'auteur est assis. Et il le prouve encore une fois cette année en sortant Mon papa Radzi. Attention, en deux mots. Le bouquin est décapant, satirique, on entre dans l'univers de la people mania de ces frasques. On y apprend qu'on peut y faire de la fumée sans feu, que les people peuvent s'élever en batterie aussi. Et que ça n'est pas parce qu'on s'appelle Radzi et qu'on est père qu'on est papa Radzi, quand bien même on est photographe de star. Allez, je ne résiste pas au plaisir de vous livrer un petit morceau choisi. Avouez, ô lecteur incrédule, qu'à une époque comme la nôtre, où le pétrole est rare, l'emploi en chute libre, l'or inabordable, les métaux précieux volés par des malfaisants, l'industrie en digue-douille, les banquiers en déroute et le commerce en berne, faire dans le people devrait valoir à ses auteurs, outre le prix Lépine et la palme de Croissance Plus, le Nobel du business bien compris. C'est donc dans ce contexte, on ne peut plus bling-bling, que Camille Radzi, à son corps défendant, fit ses premiers pas dans le monde des very importantes personnes, celles dont parlent les gazettes, qui passent à la télé ou que l'on croise dans les festivals dignes de ce nom. À noter l'avant-propos de l'auteur qui est une mise en garde, car ce livre, selon lui, est un médicament, recommandé entre autres pour la festivalopathie chronique, l'eczéma végétarien et les blessures légères par starification. Il est déconseillé aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes à tendance midinette sujettes au vertige, bouffées de joie ou hallucinations, ainsi qu'aux patients, quel qu'en soit le sexe, souffrant de troubles de la personnalité. Un peu plus loin, il ajoute qu'il est conseillé pendant la durée du traitement de ne pas absorber de médicaments contenant des sulfites de criticose, d'anhydride de mise en cause ou des extraits d'éreintose. D'une façon générale, éviter tout produit pouvant diminuer, voire obérer les effets du présent médicament. Le livre, risque grave d'altération du jugement. En cas de surdosage ou de problèmes collatéraux, consultez immédiatement votre pipologue. avec une activité, et j'imagine quand même des agendas particulièrement remplis, vous trouvez encore le temps d'écrire, encore et toujours, parce que ça fait longtemps que vous écrivez, et même très longtemps, vous avez été primé d'ailleurs. Aujourd'hui donc, vous sortez un petit chef-d'œuvre un peu acide qui s'intitule « Mon papa Radzi ». Alors il faut bien le séparer, surtout en radio. Y a-t-il une part de vous-même dans le personnage, on va dire, qui est au centre de cette histoire, Camille ?
Ouais, si vous voulez, ça fait très longtemps, moi, bon, pour revenir à ce que vous disiez au début, ça fait longtemps que j'écris, parce que j'ai toujours aimé ça, et j'ai publié un certain nombre de bouquins. J'ai toujours fait des livres, que ce soit des romans ou des pamphlets, sur la société.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges. Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Ce qui m'amuse, c'est de faire un peu de la satire de tel ou tel univers. Bon. Et ça fait longtemps que je me disais, je voudrais bien faire un truc sur, à la fois sur mon métier, sur la communication, sur le cinéma, sur les festivals, sur la façon dont les gens se comportent, sont, etc. Mais je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Et puis l'idée m'est venue, donc il y a maintenant 3 ans, de le faire sous forme d'un roman, mais qui est un roman pamphlet un peu. C'est quand même une satire assez pointue à certains niveaux. Et l'histoire, elle est simple. C'est un môme de 20 ans qui s'appelle Camille Radzi. Le père est photographe de star, il s'appelle Lucas. Il y a des gens qui s'appellent Boucher qui sont Bouchers. Bon, bah, lui, il s'appelle Lucas Radzi, et effectivement, donc le môme dit « mon papa Radzi ».
Mais il ne l'est pas.
Par contre, il est effectivement photographe de star, mais sans être paparazzi. Et surtout, il travaille pour une sorte de mentor des relations publiques mondaines. Et il va être pris dans un imbroglio de choses pour lesquelles il est quasi pour rien. Il va se faire taper dessus par ses commanditaires. Il va être pris en grippe par les médias. Et donc, pour essayer de sauver le père, le fils, plus un vieux journaliste qui connaît tout ça, ont une idée d'allumer un contre-feu. Parce que, si vous voulez, dans la presse, un clou chasse l'autre. Le premier clou étant enfoncé dans le derrière du père, il faut en inventer un autre qui s'est enfoncé ailleurs. Et c'est comme ça que je suis arrivé à cette fabrique de people d'élevage, qui est une invention de ma part, mais qui n'est pas complètement fausse, entre nous soit dit. Parce que la toile de fond de mon bouquin, c'est la people mania. Et moi, je dis que la people mania, ça se situe exactement entre la grippe aviaire et la vache folle. C'est une des maladies de l'époque. Il n'y a pas une émission sans avoir le people de machin. Il n'y a pas un canard maintenant, même les plus sérieux soient-ils, ont les pages people. Et tous passent par les people. Et en plus, et people n'importe qui. Le sportif est un people. Le mannequin est un people. Le politique devient un people, ce qui est quand même un comble. Les curés sont des people, pour peu qu'ils aient écrit quelque chose. Et l'assassin, j'ai un papier dans ma poche, là, ça m'a fait hurler de rire. Le gars qui a fait 25 ans de tôle, qui a fait je ne sais pas quoi, c'est un people parce qu'il a écrit le bouquin « Comment j'ai tué machin ». Voilà, j'invente rien, c'est Figaro ce matin. Hein. Bon, c'est pas les people que je mets en cause. c'est la people mania. Et la people mania, elle dépasse les people. Ils sont les jouets du truc. Ce dont, sur quoi je m'oriente et dont je me moque, entre guillemets, c'est ceux qui les utilisent. C'est le marketing du people, en fait.
Il y a quelques années, on parlait de pamphlets. Vous étiez chez Pivot avec un bouquin qui s'appelait Cocoricouac, où vous parliez d'une France qui était scindée en deux parties. Hein, c'était la France des « ou ». Je voudrais savoir si cette France des « ou » est toujours d'actualité aujourd'hui.
Ah, je crois que malheureusement, elle n'est plus que jamais, je veux dire. C'est marrant que vous me disiez ça, parce que oui, le type, c'était Cocoricouac ou la France coupée en deux.
Voilà.
Et à l'époque, je disais, bon, c'était les Parisiens contre les provinciaux. Parce qu'il faut quand même savoir, mais c'est un truc que je cite souvent, je crois qu'on est un pays assez quand même particulier où vous avez la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Vous avez les gens de Rouen qui ne peuvent pas piffrer, les gens de Caen. Où vous avez, souvenez-vous du film de Berry, Manon des Sources, etc. Tataouine, le village du haut, et le Tataouine, le village du bas. Ils sont à 300 mètres de distance. Donc, si vous voulez, on est quand même chauvin d'une façon absolument affolante. C'était ça le thème du bouquin. C'était la droite et la gauche. C'était les intellectuels. Où vous êtes un intellectuel de gauche, où vous êtes un roi des cons. Où vous êtes un provincial de rien, où vous êtes un parisien, machin. Voilà. Donc, c'était ça. Et je pense qu'on pourrait réécrire. J'ai déjà pensé aussi à. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait, sur un Cocoricouac numéro 2, parce que là, en ce moment, c'est encore plus croustillant.
Qu'est-ce qui fait votre plume? Parce que vous avez une plume tout à fait particulière, que ce soit dans Cocoricouac ou dans Mon Papa Razzi. Vous vous amusez avec les mots, à les faire sonner, à mettre de temps en temps une petite dissonance, grand bien. Alors avec des définitions aussi assez rigolotes. Hein. Il y a des petits notas comme ça qui nous renvoient à des définitions. Alors, par exemple, vous définissez le cast, les vedettes du film, la caste aristocratique du Groubi. Ils sont généralement inclus, celui qui filme et ceux qui paient. Il y a plein de petites réflexions comme ça. Elles sont presque philosophique.
J'ai toujours travaillé sérieusement sans me prendre au sérieux. Et je suis très très incapable de ne pas faire de l'humour, entre guillemets, ou de voir les choses avec humour. C'est le prisme qui me permet de ne pas être trop désabusé et d'être encore, si vous voulez, attentif à un certain nombre de choses. Donc, deuxièmement, j'aime écrire. Mes grands maîtres, entre guillemets, c'était plus Queneau, Boudard que Proust. J'aime bien, effectivement, jouer avec les mots, fabriquer des mots, trouver des formules un petit peu bizarroïdes, faire des phrases courtes pour que ça cavale. Voilà, donc, si vous voulez, je prends mon pied, heureusement, parce que comme je ne fais pas que ça, et que, en France, si on n'est pas un journaliste qui écrit, ou un écrivain tout court, on n'est pas pris au sérieux pour un écrivain. Et moi, mon problème, c'est que j'ai écrit déjà au moins 15 ou 16 bouquins dont certains ont marché très très bien, certains avec effectivement des prix, mais je reste quand même un vilain gars qui fait de la communication ou des festivals. Donc ça peut être qu'un con qui n'est pas un écrivain, quelqu'un qui fait ça. Fonction de ça, je prends mon pied en écrivant. Étant donné que je ne fais pas que ça, pour moi, un bouquin, c'est facilement 3 ans. Hein, donc, et quand je suis sur un livre, c'est mes soirées, c'est mes week-ends, c'est les vacances. Voilà. D'abord, je me fais plaisir en essayant de faire de trouver des formes. Je photographie la société ou l'univers dans lequel je place mes personnages. Et puis à partir de là, je leur dresse des costumes de différentes tailles.
c'est des premiers jets, les chapitres, ou alors vous ciselez vos phrases?
Ça dépend des cas. Hein. Celui-là, pour être franc, il y a certains romans que j'ai faits, ou même pamphlets, où j'avais carrément un sommaire, enfin, c'était assez préparé. Là, je savais d'où je partais, je ne savais pas où j'allais arriver. Vraiment. Hein. Je disais à ma femme, des soirs, quand je remontais à me coucher à 2h ou 3h du matin, je disais, écoute, je te ferai dire demain, je ne sais pas d'où je suis parti, mais je n'avais vraiment pas pensé à ce que j'allais arriver à ça. Et ça, c'est très excitant, d'ailleurs.
Il a d'ailleurs une forme qui pourrait tout à fait être cinématographique, hein, ce bouquin.
Oui, mais j'en avais fait un autre, si vous voulez, il y a quelques années, qui s'appelait « L'homme qui ne supportait pas les infos ». C'était pareil, ça pouvait faire un sujet. C'était l'histoire d'un gars qui, un jour, il se rend compte qu'il est tellement démoralisé par les infos qu'il regarde à la télé qu'il s'aperçoit qu'il nage dans ses chaussures, il nage dans son caleçon. Il a rétréci, il va tellement rétrécir qu'il va devenir, le mec il fait 1m85, etc. Il passe à la taille d'1m10 comme un môme de 9 ans. Quoi. Bon, voilà. Donc, ça a failli devenir faire un film, mais ça ne l'a pas fait.
Et l'idée vous-même de passer derrière la caméra, il y a justement des auteurs de la Ligue de l'Imaginaire qui vont en parler dans ce festival.
Non, moi, si vous voulez, je suis... Je ne serais pas capable, si vous voulez. Moi, ce qui m'excite, c'est d'écrire, ça serait de faire des dialogues. Mais je ne peux pas tenir une caméra. Je pense qu'entre nous soit dit, c'est un des problèmes du cinéma français. C'est-à-dire que les gars, ils se prennent à la fois. Je veux dire, on ne peut pas être à la fois un metteur en scène formidable, un directeur d'acteur formidable, un scénariste formidable, un dialoguiste formidable. La suprématie des Américains, c'est que ce sont des équipes qui travaillent. Il n'y a pas un gars qui écrit l'histoire. Les 9 dixièmes des films que vous voyez en ce moment, ils sont conçus, écrits, rédigés, mis en scène, etc. par le même individu. Mmh. Bon, moi, je ne me sens pas capable de faire ça.
Mon papa a dit achevé. Y a-t-il déjà quelque chose d'autre en route?
Peut-être, parce que là, comme vous m'avez réveillé un truc, là, le cocoricouac, c'est-à-dire bon, une satire de la société actuelle où y a des trucs quand même complètement fous. Peut-être que ça fera effectivement l'objet d'un prochain bouquin.
Mon papa Razzi aux éditions du Rocher sera chez tous les bons libraires à partir du 20 janvier. Cocoricouac est malheureusement épuisé, reste donc à attendre le numéro 2 qu'il annonçait à l'instant. Pour en savoir plus sur les métiers de la communication et des relations publiques, dont Lionel Chouchon est un spécialiste très reconnu, son Que sais-je est toujours, lui, disponible. 123 pages, 8 euros aux éditions des Presses universitaires de France. Quant au Festival international du film fantastique qui débutera le 26 janvier prochain, et bien sûr, la rédaction de Cocktail FM lui consacrera une chronique quotidienne et un magazine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes de Cocktail FM. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine du samedi.